Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Taxi 5 sera dans toutes les salles de cinéma mercredi. Le film produit par Luc Besson a bénéficié ce week-end d'une sortie anticipée à Marseille. Stéphane Boudsocq y était et dans un instant, nous vous offrirons des places pour aller découvrir le film. Éric Giacometti et Jacques Ravel, les créateurs du commissaire franc-maçon Antoine Marcas, inaugurent une nouvelle série, Le Triomphe des Ténèbres, consacrée au lien ambigu entre le nazisme et l'ésotérisme, confidence des deux auteurs au micro de Bernard Lu. Le premier festival Cannes Série se tient actuellement sur la Croisette. On a pu y voir les premières images de l'adaptation du best-seller de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Laurent Marsic a rencontré le réalisateur Jean-Jacques Hano et l'interprète principal Patrick Dempsey. Et puis à la télévision ce soir, un nouveau numéro du Monde de Jamy sur France 3, le thème « Quand notre météo devient folle », ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est un des films français les plus attendus de cette année 2018. Le cinquième épisode de la saga Taxi déboule sur nos écrans après-demain mercredi. Stéphane Boudsocq, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez ce week-end à Marseille avec l'équipe de cette production signée Luc Besson.
Taxi 5 a d'ailleurs sorti dès samedi en région PACA, logique, hein, c'est à Marseille que l'histoire est née, qu'elle a été tournée. Et en deux jours, 52 000 spectateurs se sont déjà rués dans les salles, rien qu'en PACA. Le premier film, figurez-vous, est sorti il y a pile 20 ans. J'ai demandé à Franck Gaston Bide, auteur, réalisateur, interprète de Taxi 5, de se souvenir.
J'ai un souvenir très clair de mon premier taxi au Gaumont Carré Sénart à côté de Melun. Et moi, je venais d'avoir le permis de conduire. Donc, on est en bande de potes et on se rue assis dans une voiture pour aller voir ce film parce que on avait vraiment le sentiment qu'il nous parlait, qu'il était fait pour nous. Il y avait une bande originale de rap qui accompagnait le film. Il y avait des cascades qu'on avait l'habitude de voir que dans des films américains. Il y avait des héros auxquels on pouvait s'identifier, qui avaient finalement pas que des gens de notre âge. Il y avait des papas, des mamans, des familles. Et puis on savait pas qu'à ce moment-là, on était en train d'assister à la naissance d'une saga culte et d'un film qui allait devenir ultra populaire en France.
Alors ça, c'était il y a 20 ans, mais que se passe-t-il dans le cinquième épisode ?
Sylvain, joué par Franck Gaston Bide, flic parisien aux méthodes limites, est muté à Marseille pour reprendre en main la police municipale, alors qu'un redoutable gang italien de voleurs de bijoux multiplie les braquages. Sylvain va devoir faire équipe avec Eddy, pitoyable chauffeur VTC, qui lui propose de faire rapatrier du bled la mythique Peugeot 407 ayant appartenu à son oncle pour lutter à armes égales contre les malfrats, mais aussi contre des ripoux locaux. On retrouve dans ce Taxi 5 tout ce qui a fait le succès des quatre premiers épisodes. De belles poursuites en bagnole, des gags, des personnages attachants et ridicules. On est entre l'esprit Gérard Houry et le rythme des productions Besson. Taxi 5 à la fois respectueux de l'original, il porte la marque du duo Gaston Bide-Bentala, déjà à l'œuvre dans Les Caïra ou Pattaya.
Tout ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'était de faire un mélange entre cette bande que j'ai créée avec mes films, ce ton, cet humour que j'essaye d'avoir dans les films que je fais, et de le transvaser dans l'univers de Taxi, tout en étant ultra respectueux de tout ça, parce qu'on adore cet univers de Taxi. Donc, c'était pas un effort, c'était une envie profonde, quoi, de respecter la franchise Taxi et d'y intégrer notre humour.
Comme on est issu de cette génération et comme on a été bercé avec ces films, ça a été une espèce de transmission logique. Ça s'est fait totalement naturellement autour de discussions. Et puis, il y avait toujours le patron, Luc Besson, qui était au-dessus de notre épaule. Et il était là, en gardien du temple. Donc, ça nous a aussi beaucoup aidé.
Luc Besson, justement, va faire le déplacement pour cette avant-première marseillaise. Très discret, le patron d'EuropaCorp et producteur de Taxi 5 s'est juste fendu de ces quelques mots sur scène.
Bon, Marseille, merci. La première fois, c'était il y a 20 ans. On est venu ici il y a 20 ans. On a été accueillis comme des rois. On se sent toujours bien chez vous. On a tourné 8 films chez vous, à Marseille. C'est toujours un plaisir. Merci de votre fidélité et on vous aime très fort. Voilà. Merci.
Alors la grande question, Stéphane, c'est de savoir comment la fameuse Peugeot 407 des films Taxi a traversé le temps jusqu'à ce cinquième volet.
Eh bien, elle arrive dans le film tel qu'on l'a laissé il y a 11 ans après le numéro 4. Poussiéreuse, un petit peu démodée, mais toujours aussi charismatique. Elle subit dans le film une petite mise au point technologique avant de repartir. Moment assez émouvant quand Sylvain et Eddy ouvrent la porte du conteneur qui ramène la voiture au port de Marseille.
En fait, on s'est rendu compte que la vraie star de cette saga, c'est cette voiture blanche. Quand elle est arrivée sur le tournage pour la première fois, toute l'équipe technique voulait se prendre en photo avec. Alors les plus vieux disaient « je fais une photo pour envoyer à mes enfants ». Et puis tous les gens de notre génération, on faisait des photos pour mettre sur nos réseaux sociaux. C'était un moment très émouvant. Et surtout, dès le début, quand on a commencé à faire une petite vidéo pour annoncer qu'on allait tourner le prochain taxi, eh ben mon idée a été de faire une scène où on découvrait le taxi qui avait été rangé comme ça dans un hangar. Et on savait qu'on allait jouer sur cette nostalgie de retrouver cette voiture qui a une histoire incroyable. Et j'espère qu'on a réussi à le faire. En tout cas, les gens nous parlent beaucoup de ce moment émouvant où on retrouve cette voiture qui nous a fait rêver et qu'on connaît depuis tellement longtemps.
À aucun moment, pendant le tournage, on se lasse de voir la voiture. C'est toujours le même effet de surprise, au même titre qu'on se rappelle de l'endroit où on était pour le 12 juillet 98. Quand on voit la voiture arriver, on se rappelle de la première fois qu'on a vu Taxi, on se rappelle des répliques cultes, on se rappelle des personnages. Donc elle transporte plus que des gens, cette voiture, elle transporte une histoire.
Alors cette histoire justement est peuplée de personnages hauts en couleur, comme le fameux commissaire Gibert, interprété toujours par Bernard Farcy. Figurez-vous que dans Taxi 5, il est devenu maire de Marseille, mais rassurez-vous, il n'a pas changé.
Il n'y a aucun neurone qui a poussé supplémentaire, oui, c'est vrai. C'est assez sympa qu'il ait pris cette sorte de promotion, qu'il ait accédé à ce poste, parce qu'il est aussi incompétent dans l'un que dans l'autre. Et il n'avait qu'une chance de s'en sortir, parce que politiquement, il était faible, c'est de redevenir commissaire faible. Et là, il est dans son domaine. Et comme il est entouré d'une bande de bras cassés, ça nous fait un clan de perdants qui gagnent.
Alors on comprend bien que tous les ingrédients sont là pour faire de ce Taxi 5 un gros succès. Je rappelle quand même que les autres films ont mis la barre très haut. 27 millions d'entrées au total. La franchise Taxi est une des plus populaires et rentables du cinéma français. Dans deux jours, le film sort sur 800 écrans. J'ai terminé en demandant à Franck Gastambide de se souvenir pour nous du jour où il a montré son film à Luc Besson.
D'abord, Luc, il intervient assez tardivement au montage. Il me laisse d'abord faire ce qu'on appelle un premier ours, c'est-à-dire un premier montage de quasiment deux heures.
Un nounours.
Moi, j'étais très angoissé parce que, évidemment, que notre patron à tous, c'est le public. Mais entre les deux, il y a un autre patron qui s'appelle Luc Besson, qui est celui qui a inventé tout ça, qui a créé tout ça, qui, il y a 20 ans, s'est dit, tiens, ça pourrait être super, une histoire d'un taxi blanc qui va à toute allure dans Marseille. Et puis, à un moment, je dois confronter mon travail au patron. De lui dire, bah voilà, ça y est, j'ai écrit ce film, je l'ai réalisé, j'ai quasiment fini de le monter. Qu'est-ce que vous en pensez, patron ? J'attendais après, à côté de mon téléphone, vraiment, mais comme si c'était mon premier rendez-vous d'amour. Et Luc m'a appelé, il n'a pas attendu que je dise allô, où il m'a dit « C'est super, bravo, tu es un digne héritier de Taxi ». Je lui ai dit « Ok, super, alors il faut qu'on coupe des scènes ». Il m'a dit « Non, on coupe pas des scènes, on va donner du rythme, mais tout est super ». Et quand on sait comment travaille Luc Besson et qu'il n'hésite pas à aller prendre sa caméra et retourner des scènes quand il trouve que c'est pas bien, ça nous a donné un premier indicateur sur le fait qu'a priori, on avait... peut-être réussi notre taxi.
Franck Gastambide et Malik Bentala, donc au volant de Taxi 5, à découvrir mercredi partout en France.
Nous vous offrons ce matin des places pour aller voir vous aussi le film. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose immédiatement Stéphane.
Dans quelle ville de France se situe historiquement l'action des films Taxi ? Bah oui, j'ai pas dit que ça serait difficile.
Vos réponses au 32-10.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Les audiences télé du week-end avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Oui, je rappelle qu'on retrouvera Malik Bentala demain dans Laissez-vous tenter parce qu'il fait la version France de Rendez-vous en Terre Inconnue qui est diffusée demain.
Très bien.
Voilà, alors audience logique en première partie de soirée, mais audience de printemps, c'est-à-dire moins élevée. Koh-Lanta frôle les 5 millions de Fana vendredi sur la une, mais ne les atteint pas devant le polar de la 2K1. Deuxième, mais là aussi en baisse avec moins de 3 500 000 fidèles. Même configuration samedi, même baisse. The Voice est en tête des audiences, mais avec moins de 5 millions d'amoureux des belles voix et moins de 25% du public télé sur la une, devant les Roches Noires. En fait, c'est le policier patrimonial de la 3 qui est le véritable gagnant, parce qu'en frôlant les 5 millions de téléspectateurs, il est le véritable gagnant avec moins de 50 000 téléspectateurs d'écart avec la une. Voilà, et puis que dire ? Bah, qu'hier, bah, logiquement, c'est Battleship sur la une qui est largement en tête des audiences, 5 100 000 téléspectateurs, de Karate Kid n'en attirant que 1 900 000 sur la 2, le deuxième étant les enquêtes de Morse sur la 3, 3 300 000 téléspectateurs. Joli score.
La littérature, Bernard Lehu, vous nous présentez le premier tome de la nouvelle série d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, Le Triomphe des Ténèbres.
Oui, alors on doit au duo Giacometti et Ravenne la création depuis 2005 de l'un des flics les plus originaux du thriller français, le commissaire Antoine Marcasse, flic franc-maçon. Après 11 enquêtes, eh bien, les deux auteurs abandonnent momentanément, je rassure les fans, leur héros, et se lancent dans une trilogie baptisée Soleil Noir, dont le premier volume se révèle absolument palpitant et bourré de révélations. Il met en lumière les liens étroits et pour le moins ambigus entre le nazisme et l'ésotérisme.
Il se trouve qu'on a réalisé un documentaire pour France 5, dans lequel nous sommes rendus à Moscou pour retrouver des archives volées par les nazis et récupérées précieusement par les soviétiques. Et on s'est aperçu que les nationaux-socialistes étaient fascinés pour l'ésotérisme. On avait là vraiment du réel, du tangible.
Par exemple, on a découvert dans le bâtiment des archives de l'armée rouge un manuscrit alchimique du XVIIe siècle qui était là au milieu de rapports militaires. Et puis, comme l'actualité nous rattrapait, au moment où on était en train de finir le film, on découvre à Prague, dans une cache, 13 000 grimoires de sorcellerie, de démonologie, d'occultisme appartenant à Erich Himmler, le chef de la SS et le responsable de la Shoah.
Et on s'est lancé dans une nouvelle aventure et donc une nouvelle série.
Mais dites-moi, croire que l'idéologie nazie serait inspirée de surnaturel, c'est une thèse assez réductrice, non ?
Oui, bah, ce n'est pas sa seule origine, bien sûr. Il ne faut pas s'imaginer que le nazisme, c'est Harry Potter à la tête d'une division de Panzer,
voilà,
comme l'écrivent joliment Giacometti et Ravenne. Mais l'idéologie du national-socialisme s'y est toujours intéressée, au point de créer, entre autres, la plus étrange des organisations SS, l'Annenerbe, un institut universitaire qui va mener des fouilles archéologiques dans toute l'Europe et au-delà, à la recherche des origines mythiques de la race aryenne et de sa supposée supériorité. Éric Giacometti.
Ils sont allés à Montségur, dans le sud de la France, pour chercher le Graal. Ils sont allés à Carnac, en Bretagne. C'était un mélange à la fois de rationalité et d'ésotérisme total. Et ces gens-là croyaient sincèrement à ces doctrines parce que ça existait déjà au XIXe siècle. C'est-à-dire, vous savez, quand Hitler, par exemple, prend la croix gammée comme emblème du parti nazi, mais il l'a pas inventé, il l'a pas sorti d'un chapeau, elle préexistait, c'était l'emblème d'une société secrète allemande qui s'appelait la société Thule, qui a elle-même créé le parti nazi, avant même que Hitler n'y arrive. Quand il arrive dans ce parti nazi, il n'était rien. Il était repéré par quelqu'un qui s'appelle Dietrich Eckart, qui était l'un de ses responsables de cette société secrète Thule, et Eckart va lui payer des cours de maintien, va lui payer des cours d'orateur, va lui présenter la riche bourgeoisie de Munich, et en même temps va lui farcir la tête de doctrine ésotérique. La race supérieure, cette pseudo-race aryenne, mais elle existait dans les concepts de ces ésotéristes fous allemands qui avaient quasiment pignon sur rue en Allemagne. Tout ça, bien, Hitler l'a récupéré, il a pris son ascension et après un moment, il s'en est débarrassé.
C'est passionnant.
Oui, mais voilà, d'autres dignitaires nazis vont y croire dur comme fer et jusqu'au bout, à commencer par le plus effrayant d'entre tous, Heinrich Himmler, le maître absolu de la SS, comme l'atteste cet épisode incroyable raconté dans Le Triomphe des Ténèbres, Jacques Ravenne.
Alors c'est un épisode qui est totalement authentique et qui a sidéré totalement les Espagnols, puisque Himmler accompagnait officiellement Hitler dans les négociations d'Hitler et de Franco de façon à ce que l'Espagne rentre dans la guerre du côté du camp de l'Axe. Et puis à un certain moment, je ne dis pas qu'il disparaît, mais il part un petit peu en goguette et on le retrouve quelques jours après à Montserrat, dans un monastère catholique qui est le symbole de la Catalogne, ça l'est toujours d'ailleurs. Et là, stupéfaction effectivement des moines qui voient arriver le chef de la SS, la première chose que demande Himmler, c'est où est le Graal ? Et là évidemment, c'est un petit peu le chaos, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'intérieur de ce monastère. Évidemment, ils ont fait chou blanc, mais ils vont ensuite continuer à Montségur, où ils vont mener des fouilles, et là aussi, c'est tout à fait réel, très importante à une certaine époque.
Montségur, célèbre fief cathare, situé aujourd'hui dans le département de l'Ariège.
Bah oui.
Alors, à partir de ce fond historique fascinant, bah alors, quelle intrigue développe Giacometti et Ravenne ?
Eh bien, une palpitante course-poursuite purement fictive, bien sûr, entre les nazis, lancés à la recherche des quatre trésors au pouvoir magique qui assurerait la victoire totale du Troisième Reich, et les services secrets britanniques qui tentent de les devancer.
Mais l'idée aussi avec cette série, c'est de montrer qu'en face, on peut être fasciné par ceux d'en face. Parce que ceux d'en face, il y avait des gens, des résistants, des agents secrets anglais, français, qui étaient incroyables. De nos jours, on se rend même pas compte du courage de ces gens-là. Alors oui, cette fiction, elle porte sur l'ésotérisme et nazisme, mais pas que là-dessus.
Et alors, on suit en tremblant pour eux les aventures du commandant Malorley et de Jen, sa belle partenaire, espion de sa majesté, face au redoutable, à l'abominable colonel SS Weichtort. On se demande aussi à quel jeu trouble se livre ce français Tristan, énigmatique trafiquant d'art. Et puis, ces personnages de fiction, eh bien, ils côtoient les figures historiques. On les croise dans ce roman, Hitler, Himmler, Göring, Goebbels, Rudolf Hess, S, je vais y arriver, H-E-2-S, et un formidable Churchill. Éric Giacometti et Jacques Ravenne réussissent brillamment le premier épisode de leur nouvelle saga, Le Triomphe des Ténèbres, publié chez Lattès. Franchement, hein, on attend la suite avec impatience.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant, si vous avez aimé La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous serez encore plus heureux de découvrir la série. A tout de suite.
RTL Matin, 9h17.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
la télévision à présent avec vous, Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez tout juste de Cannes où se tient jusqu'à mercredi le premier festival Cannes Série, comme son nom l'indique. Et l'événement cannois ce week-end, c'était la présentation de l'adaptation de La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, série réalisée par Jean-Jacques Hanau avec dans le rôle d'Harry Kébert et bien Patrick Dempsey.
L'ex-docteur Mamour de Grey's Anatomy. Lors de cette soirée, c'est un montage de 35 minutes qui a été diffusé, montage détruit après diffusion, alors pas facile de se faire un avis, sinon que c'est très cinématographique, c'est très travaillé. Le livre de Joël Dicker raconte, si vous ne l'avez pas lu, la chute et l'enquête autour d'un immense écrivain, Harry Kébert, accusé du meurtre d'une jeune fille de 15 ans, dont on retrouve le cadavre enterré dans sa propriété 30 ans après sa disparition. Première expérience télé pour le cinéaste Jean-Jacques Hanau, tombé sous le charme de ce roman et de la télévision.
J'ai eu l'envie, depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, de trouver un sujet qui me permette, au lieu de faire 2 heures de récit, de faire un récit sur 8 ou 10 heures, qui permette, comme le faisaient les auteurs d'autrefois, je pense à Balzac, à Victor Hugo, à Dumas, de faire finalement une histoire que l'on va déguster morceau par morceau, semaine après semaine, et raconter des histoires plus compliquées, finalement, avec des personnages secondaires qui deviennent extrêmement importants.
Il y a 250 personnages dans cette série produite par la MGM et c'est donc l'acteur américain Patrick Dempsey qui incarne Harry Kébert, jeune et vieux. Il connaissait Jean-Jacques Hanau, il est tombé lui aussi sous le charme de la plume de Dicker. Est-ce que c'est un choix singulier qui pourrait surprendre le public, plus habitué à le voir dans des rôles un peu plus légers, Bridget Jones ou Grey's Anatomy? Patrick Dempsey.
Je comprends pourquoi les gens peuvent être surpris de l'extérieur. Mais pour moi, j'ai toujours voulu faire un thriller et travailler avec Jean-Jacques. Je suis un de ses fans depuis de nombreuses années. Être capable de travailler avec lui est un rêve qui devient réalité. Dès que j'ai vu son nom, je savais que je voulais le faire. Et j'ai eu l'opportunité ensuite de lire le livre et j'ai adoré ce que Joël a fait avec le roman. L'histoire, le suspense, l'aspect psychologique. C'était une opportunité pour moi en tant qu'acteur d'être capable de jouer un personnage en 1975 et jusqu'à sa soixantaine avec le maquillage. C'était un personnage inattendu pour moi, comme je le disais au début de l'interview.
Alors dites-nous tout, est-ce que c'est fidèle au roman de Joël Dicker?
Ah oui, ça va même au-delà, c'est la question que j'ai posée à Joël Dicker et c'est ce qu'il répond. Plus que ravi de cette adaptation, Jean-Jacques Hanau était le 89e et c'était la dernière proposition. Il y avait quand même Ron Howard, Steven Spielberg, Luc Besson qui étaient sur les rangs.
Je retrouve complètement mon histoire, d'abord par la fidélité totale avec laquelle Jean-Jacques a adapté le roman. Tout est là, mais surtout la force de Jean-Jacques et la force de Jean-Jacques dans cette adaptation, c'est que au fond, c'est pas très important de savoir si les images correspondent aux images du livre. Donc c'est pas tant la question de ce qu'on voit, c'est la question de ce qu'on ressent.
La vérité sur l'affaire Harry Kébert, avec aussi de formidables second rôles portés par Ben Schneider dans le rôle de l'écrivain ex-étudiant enquêteur, celui qui ne croit pas à la culpabilité de son ancien prof de lettres, et Christine Frossette dans le rôle de Nola, l'adolescente assassinée. Ce sera sans doute l'événement de la rentrée prochaine sur TF1. En tout cas, l'équipe a eu droit à un accueil assez délirant à Cannes. Cannes Série et sa présidente, Fleur Pellerin, ravie de voir ce festival prendre son envol, elle l'a dit avec des mots particuliers.
En politique, souvent on a des idées, mais c'est rare qu'on les voit mises en œuvre.
Là, donc, le festival a été mis en œuvre puisqu'elle en est à l'initiative. Cannes Série qui fermera ses portes mercredi soir avec une autre grosse série d'Arlan Coben qui va être présentée. Arlan Coben est le président du jury de Cannes Série. La série s'appelle Safe.
Merci beaucoup, Laurent Marsic. Alors, on s'occupe maintenant de notre soirée télévisée. Vous signalez la rediffusion du film Les Diaboliques sur France 5,
oui,
Isabelle.
Et je vous signale le futur de Johnny Hallyday parmi les élèves du pensionnat de garçons, pensionnat dans lequel se déroule ce polar glacial. Cherchez-le. C'est pas la seule rediffusion. Il y a donc ce soir, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la 3, un excellent monde de Jamy, consacré à cette météo supposée devenue folle. Alors ne loupez pas, la séquence est très visuelle donc je vous l'épargne, la séquence apprenant au public les gestes qui sauvent quand on est pris et surpris par les eaux au volant de sa voiture.
Cette émission, elle est très bien. Oui,
tout à fait. Alors cette rediffusion annonce un inédit un peu du même genre programmé lundi prochain et consacré cette fois à la météo, mais à la météo liée à la vie en conditions extrêmes aussi bien au milieu des océans qu'au sommet d'une montagne. Et il sera cette fois accompagné de notre camarade Églantine Émeillé Échantillon.
Viens voir, Églantine. Regarde ça.
Voilà, c'est entièrement pour le bruit que je vous le propose. C'est spectaculaire. Donc, avis de tempête sur la 3 ce soir. comme lundi prochain. C'est vraiment une très bonne émission qui ne fait pas des audiences spectaculaires, mais qui est intéressante.
On a aussi un soir de fiction. Hein.
Et de friction. Excellente saison du Clem, 8e saison, qui voit ce soir sur TF1 le retour de Laurent Gamelon, premier mari de Caroline Victoria Abril. Le voici avec sa fille Salomé en pleine crise de foie, mais pas à cause de la nourriture.
Mange ça plutôt, il est tout frais.
Je suis vegan, papa. Je mange rien d'animal et ce truc, c'est plein de beurre.
Mais tu sais quoi, demain matin, je t'apporterai une botte de foin. Dis-moi, tu
veux voilà. Que je en face sur la 2, oui. En face sur la 2, fin du chalet. Polar, très compliqué sur la forme, les flashbacks, faut arrêter. Hein. Mais bonne intrigue sur le fond. On saura ce soir qui s'amuse à zigouiller tous les vacanciers venus se ressourcer en montagne. Et pour la dernière fois, on entendra ce générique que j'adore.
Montez jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra jamais, on ne le reverra.
On pourrait l'écouter en boucle, moi, voilà. Excellent dénouement, malgré les vraies longueurs. Il y a beaucoup de cadavres, sans parler des temps morts.
Alors, on termine par ce qui m'intéresse vraiment, Wild sur M6.
Alors, on le sait, des experts doivent accompagner des novices dans des endroits hostiles pour leur apprendre la vie et surtout la survie en milieux extrêmes. Ce soir, c'est la jungle, à tous les sens du terme. Alors, très sincèrement, je trouve injuste que dans les deux émissions précédentes, les seules choses relevées dans les médias soient la scène des bruitages incommodes, si j'ose dire, et puis une scène d'experts buvant son urine après l'avoir produite. Le programme, c'est quand même plus que ça.
Ça nous a quand même fait bien rire.
Notamment,
si
oui, notamment ce soir où on verra certains novices secourir leur expert. J'en veux pour preuve mon tandem préféré, le tandem Nicolas Manu, un ancien légionnaire coachant un coiffeur manucure aussi doué pour l'aventure oui, que moi vrai. Pour monter un meuble Ikea. Ils vont pourtant s'entendre. Écoutez Manu sursauter d'abord devant une petite araignée.
Ah, une araignée. Oh putain, non, j'ai trop peur.
Moi j'ai peur des petites bêtes, donc c'est inquiétant parce que je me dis si ça commence comme ça, je vais pas finir les trois jours.
Ok, il est peut-être chaud, mais il sait se faire violence.
Sauf que la nuit suivante, ils sont attaqués par des milliers de fourmis CP qui bouffent, alors ça c'est hallucinant à voir, qui bouffent les câbles du hamac, la toile, les vêtements, d'où un réveil difficile pour l'expert.
Manu, quoi ? Réveille-toi, on est un trafic de fourmis, là. Sa mère, elles sont agressives et tout. Regarde !
À l'horreur.
Punaise !
Ah, l'angoisse.
C'est des grosses noires, en plus, qui s'accrochent.
Ces bestioles, c'est infernal. Elles grimpent aux arbres, elles longent les petites ficelles de nos hamacs, elles bouffent la toile.
C'est ce que j'ai regardé, moi.
Toute la nuit, on s'est fait dévorer.
Jamais vu ça de ma vie. Elles ont découpé le sac.
Ah là là,
et du coup, le novice, il n'ose plus rien dire. Il ramasse les fourmis, il vide son sac. Et là, les rôles sont très clairement inversés. Et moi, franchement, il y a des scènes qui sont très tendres. Moi, c'est un programme que je cautionne, même si certaines séquences pourraient être évitées.
Bon, moi, depuis le début, ça me fait rire. Je passe un excellent moment. Allez, dans un instant, on distribue les places de cinéma.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Légèrement. Dans quelle ville de France se situe Historique pour l'action des films Taxi, s'il vous plaît?
C'est à Marseille.
Voilà, si vous nous appelez au 3210, eh bien, vous avez gagné des places qui vous sont offertes par Monsieur Stéphane Boutsock. Eh oui.
J'ai cru ça, c'est toujours Taxi 2.
Mais oui, bien sûr.
Bon, on va Taxi 5, en fait.
Oui, pardonnez-moi.
Faut suivre. Voilà, bon.
Alors, Julien Courbet, oui. Si vous voulez bien me sortir de ce mauvais pas, ce serait pas mal.
Pourquoi? Quel est votre mauvais pas?
Bon, j'ai annoncé Taxi 2 au lieu de Taxi 5. C'est pour que j'en ai 3 de retard.
Pas grave.
Mais bon, je vais commander un Uber.
3 de retard, ça fait beaucoup. Voilà. Je tiens à vous le dire. Oui. C'est un ou deux, en général, ça passe. Mais 3, ça veut dire que vous êtes de notre siècle.
C'est ça même.
Bon, je vous souhaite une belle matinée.
Et moi, je vous souhaite une excellente émission.
Ne rentrez pas chez vous tout de suite, vous aurez du mal à circuler. Si j'ai un conseil à vous donner. Là, tout est bloqué. Vous n'avez peut-être pas vu ça ce matin, mais là, c'est vraiment bloqué autour de la radio.
Bon, bah, je fonce.
Voilà.
Je fonce tout droit, comme une brute.
Exactement. Bonne matinée, bonne semaine.